Merci Pierre Chevalier, bonjour à tous. Suite et deuxième épisode ce mardi d'une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à la pensée de Claude Lévi-Strauss. Après Catherine Clément, venue hier vous parler de l'homme Lévi-Strauss, c'est en compagnie de l'anthropologue Françoise Héritier que nous allons revenir aujourd'hui sur un texte essentiel, difficile, cardinal, les structures élémentaires de la parenté. Bonjour Françoise Héritier, bienvenue sur France Culture. La pensée de Lévi-Strauss se caractérise par un rapport critique à la philosophie des Lumières, qu'on retrouve notamment dans son interrogation, sa mise en question, souvent d'ailleurs, de la notion d'universel. Il dit notamment ceci, il dit « Tout ce qui est universel chez l'homme relève de l'ordre de la nature et se caractérise par la spontanéité. Tout ce qui est astreint à une norme appartient à la culture et présente les attributs du relatif et du particulier, en donnant d'ailleurs par là le sentiment d'une inversion des termes, en somme. Mais il y a une exception, semble-t-il, à cette universalité naturelle et ce particularisme culturel, c'est la prohibition de l'inceste, dont on a le sentiment chez Lévi-Strauss qu'elle est la seule de toutes les règles qui présente au sein des sociétés humaines un caractère d'universalité. Françoise Héritier.
Je pense qu'il avait raison de présenter la prohibition de l'inceste comme étant un phénomène ayant un caractère universel. Je ne suis pas tout à fait aussi sûre que lui qu'on ne pourrait pas trouver d'autres éléments ayant aussi un caractère universel.
Dans l'ordre de la culture.
Dans l'ordre de la culture.
Vous pensez à quoi ?
Je pense très précisément à quelque chose à quoi je me suis attachée par la suite et qui me semble être... disons, être concomitant à l'apparition de la prohibition de l'inceste et avoir été d'ailleurs la condition même de ce qui a suivi, c'est-à-dire la règle d'exogamie, l'échange, c'est-à-dire la domination du masculin sur le féminin. Car s'il n'y avait pas eu déjà dans la tête de ces humanités naissantes et pensantes quelque chose qui permettait aux hommes de pouvoir échanger leurs filles et leurs sœurs, et non pas l'inverse, tout ce qui s'est ensuivi de la prohibition de l'inceste dans la théorie lévi-straussienne n'aurait pas pu être dit de la même manière.
Vous voulez dire qu'il y a un a priori patriarcal du tabou de l'inceste ?
Ce n'est pas un a priori patriarcal, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et qui suit deux pistes différentes. L'une, c'est quelque chose qui touche à une sorte de réflexion que font les humains, mais de tout temps, hein, de nos jours, de la même manière, sur le rapport entre des humeurs, les humeurs du corps, qui sont identiques ou différentes. Et l'idée, la réponse est culturelle, c'est-à-dire qu'elle présente cet aspect relativiste dont parlait Lévi-Strauss. Quand j'entends relativiste, j'entends différencier. On peut dire que c'est bon, on peut dire que c'est mauvais. Bon.
On ne peut pas dire que c'est bien ou que c'est mal.
Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal.
Précisément, c'est pour ça que j'apportais cette précision. Oui. C'est-à-dire qu'on est là dans une échelle qui est une échelle relative malgré tout.
C'est une échelle
du bon et du mauvais, pas
c'est
une échelle
bon
de valeurs
mauvais,
absolues.
En raison des conséquences que l'on attribue à ce genre de choses. Dans des temps où l'on ne fait pas trop de différence entre justement le monde naturel, ce qui se passe dans le monde naturel, et les actes du monde culturel, les actes des humains, où on peut penser que des actes des humains vont déclencher des réactions cosmologiques, eh bien, où il y a une continuité, si vous voulez, on peut penser que les actes que les humains commettent... on a le sens du péché, mais j'enlève toute cette connotation-là, que les humains commettent, peuvent avoir une correspondance dans le monde cosmologique. Donc la réponse à la question que se pose l'humanité, est-ce que c'est bien de mettre ensemble des choses identiques et de faire se toucher des humeurs identiques, ou au contraire, est-ce qu'il faut les différencier ? On va avoir majoritairement des réponses qui diront c'est mauvais.
En somme, l'inceste est devenu un tabou parce qu'on a hypostasié le bon et le mauvais en bien et mal. On les a transformés en bien et mal. On a transformé en injonction morale ce qui relevait au départ d'une structuration des sociétés
oui,
primitives.
Mais on les a aussi transformés dans d'autres manières, puisque par la suite, on l'a transformé en bien ou mal sur le plan génétique. Vous savez bien qu'on a expliqué la prohibition de l'inceste par une sorte de conscience qu'aurait eue l'humanité de ses effets nocifs sur la descendance.
Oui, ça c'est la thèse de Lewis Morgan. De Henry Maine, par exemple,
oui,
qui explique
ça.
Que la prohibition de l'inceste est une mesure de protection qui vise à mettre à l'abri l'espèce.
Donc il y a eu toute une série d'explications. Donc, si vous voulez, j'en apporte une autre. Je ne vous dis pas quelle est l'explication définitive, mais c'est pour vous dire que la prohibition de l'inceste n'est pas née comme cela de la volonté de pratiquer un échange régulier entre des groupes consanguins qui, auparavant, se reproduisaient sur leur propre force génésique. C'est-à-dire entre eux, d'une manière d'ailleurs dont nous n'avons aucune idée. Nous ne pouvons nous faire des représentations par rapport à certaines sociétés animales, nos frères les plus proches, enfin les gorilles, les chimpanzés, les grands singes, mais c'est-à-dire avec des mâles dominants qui ont accès à toutes les femelles, mais il n'empêche que nous n'avons pas une idée précise de la manière dont ça se passait dans ces groupes consanguins qui ignoraient la prohibition de l'inceste avant que l'humanité pensante se pose la question de savoir si c'était bon ou mauvais pour elle d'avoir des rapports dans l'identique, etc. Et alors le deuxième point, c'est cette autre interrogation, ce sont des interrogations qui portent, là aussi, pour les humains de ces origines, que je fais partir d'Homo sapiens, sous ces deux formes, hein, Néandertal et la nôtre, les formes antérieures, on ne peut pas vraiment dire grand-chose, c'est l'interrogation posée par des objets récurrents dans l'observation, j'appelle des butoirs pour la pensée, parce qu'on ne peut pas les contourner, on ne peut pas les éliminer, on ne peut pas les fragmenter, on est obligé de faire avec. Et nous continuons d'être obligés de faire avec. C'est le fait de s'apercevoir que tout le monde animal, pour ne pas parler du végétal qui était hors d'accès pour eux, tout le monde animal est divisé selon la même division sexuée, du masculin et du féminin. Et chose étrange, que c'est le féminin qui reproduit les deux. Il reproduit le même et le différent. On retrouve cette idée de même et de différent. Bon. Et donc la question, c'est de savoir pourquoi.
Est-ce que c'est l'accès... Vous avez parlé de l'humanité pensante. Mmh. Alors ça pose toute une série de problèmes, puisque se pose la question d'une solution de continuité entre le règne animal et le règne humain, de la possibilité d'affranchir l'humanité d'un déterminisme naturel, ce qui ferait de en l'occurrence je parle de Lévi-Strauss, ce qui ancrerait chez Lévi-Strauss un rousseauisme qui n'est pas le sien, puisqu'il est différemment rousseauiste, Lévi-Strauss. Il n'est pas rousseauiste en ce qu'il souscrit à cette différence radicale que Rousseau établit entre l'humain et le règne naturel. Il est rousseauiste dans la mesure, enfin c'est le Rousseau de l'essai sur l'origine des langues ou du portrait de l'homme à l'état de nature, c'est plutôt celui-là. Mais alors justement, cette question de la prohibition de l'inceste, est-ce qu'elle ne vient pas compliquer, à l'aube d'ailleurs de son œuvre, hein, puisqu'on est en 49, quand il écrit sa thèse, est-ce qu'elle ne vient pas compliquer d'emblée le refus lévi-straussien d'instaurer une véritable rupture entre le règne animal et le règne humain? Pour catégoriser les choses de façon un peu sommaire. Est-ce que le problème de la prohibition de l'inceste ne vient pas compliquer la césure entre la nature et la culture ?
Pour Lévi-Strauss, ça ne venait pas compliquer. C'était au contraire une manière pour lui de manifester un lieu de passage, une frontière entre la nature et la culture.
C'est donc marquer deux univers différents.
Il marquait deux univers différents. Mais selon un scénario, il ne faut pas... Je pense que Lévi-Strauss a toujours eu conscience que ce que nous faisons, nous autres anthropologues, quand nous réfléchissons sur le passé, et non pas sur des sociétés qui s'étalent devant nos yeux, nous sommes bien obligés de poser des hypothèses et de mettre en place des scénarios. Donc il met en place un scénario extrêmement plausible, extrêmement fort, parce qu'il explique beaucoup de choses. Mais il n'explique pas tout, pourquoi ce sont encore une fois les hommes...
Laissant à ses successeurs comme vous le soin, voilà, évidemment, de résorber les impasses.
Il n'explique pas, il ne parle pas non plus de cette continuité dans l'esprit entre le cosmos, entre la nature et l'humain. Et le fait que l'humanité, après tout, son cerveau y compris, c'est de la nature, c'est de la matière. Bon, cette continuité dont je parlais tout à l'heure, mais qui existe encore dans nos formes langagières. Je ne sais pas, moi, quand j'étais enfant, si quelqu'un chantait faux, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, on lui disait « arrête, tu vas faire pleuvoir ».
Oui, bien sûr.
« Chanter faux, fais pleuvoir ».
Oui, on dit aussi de quelqu'un qui le chante faux, quand on veut le faire taire, on dit « étranglons le chat ».
Ah, ça, je ne connaissais pas.
Vous ne connaissez pas celle-là ? Étrangler le chat, voilà, un chat qui chante.
Un chat qui chante. Mais faire pleuvoir, vous voyez, on a vraiment ce rapport entre un acte humain, chanter, et puis une réaction, un ébranlement, quelque chose qui se passe, un ébranlement de la nature, un ébranlement de l'air, qui va faire se condenser les nuages et faire pleuvoir. Bon, ben, tout cette espèce de chaîne que je suis en train de vous expliquer, nous le disons très brièvement, sans y penser. Bon, et donc cette espèce de continuité, elle est dans tous les esprits, et Lévi-Strauss ne la percevait pas de la même manière, mais il le présente comme le résultat d'une règle issue de la prohibition de l'inceste qui vient d'une volonté des hommes. C'est les hommes qui s'interdisent l'accès à leurs filles et à leurs sœurs. Alors que,
est-ce que cette volonté des hommes témoigne chez eux d'une volonté de maintenir un ordre social ou bien d'un sens inné du sacré ? Puisqu'en somme, c'est la question que l'auditeur se pose. Alors, l'auditeur qui nous écoute, Françoise Héritier, peut avoir, à bon droit d'ailleurs et à juste titre, le sentiment qu'il y a là véritablement blasphème ou profanation en cas d'inceste. C'est-à-dire le sens spontanément, le sens du sacré. Est-ce que le travail de Lévi-Strauss ne consiste pas à donner une fonction non pas historique, une origine non pas historique, mais j'allais dire archéologique, à ce qui nous semble absolu, sacré, sanctifié ?
Je ne suis pas... Bon, nous avons donné un caractère sacré à la prohibition de l'inceste. Et à l'heure actuelle, d'ailleurs, même dans les cours d'assises qui jugent de ces questions, je me souviens de textes sur des cas d'inceste avec des mariages entre frères et sœurs, demi-frères, demi-sœurs, etc., et où les réfutations qui sont faites par différents avocats ou par des différents juges font référence à ce caractère sacré, cette terreur sacrée par rapport à l'inceste. Mais la terreur sacrée, c'est quelque chose qui nous est venu progressivement, peut-être, et qui a été ajouté, surajouté par les religions, car il fallait bien donner un sens supplémentaire à quelque chose qui n'était pas dicible. Mais la prohibition de l'inceste elle-même, elle part encore une fois d'une réflexion sur d'autres choses qui, au départ, n'ont pas un caractère sacré, mais qui sont nécessaires et utiles pour la survie de l'humanité dans l'esprit de cette humanité. Parce que la prohibition de l'inceste, et c'est là la limite du discours lévi-straussien dans les structures élémentaires de la parenté, elle ne touche pas seulement des consanguins dans les sociétés humaines, elle touche aussi des alliés. C'est-à-dire des parents par alliance. Or, s'il y a une terreur, il pouvait y avoir...
Mais c'est pas la même chose, oui.
Mais c'est la même chose.
C'est la même chose. Dans l'esprit des gens, ça n'est pas la même chose. Or, c'est la même chose ici.
C'est la même chose. C'est la même chose. Or, si vous avez pu épouser, vous êtes un homme, vous avez pu épouser une femme, vous auriez pu tout aussi bien épouser sa sœur. Et pourquoi se fait-il que dans un grand nombre de sociétés, une fois que vous avez épousé une femme, vous ne pourrez plus jamais épouser sa sœur, même après la mort de la première? Dans certaines, vous pouvez l'épouser après la mort de la première.
On a des contre-exemples quand même à cela.
On a des contre-exemples. J'ai dit au départ que les réponses peuvent être différentes, selon que c'est bon ou que c'est mauvais. Mais il y a toute une série de progressions, si vous voulez, qui vont d'une absence totale à la possibilité totale. Mais il n'importe, c'est une question qui est posée par l'humanité. Si vous voulez, ce qui est important, ce n'est pas tellement les réponses et la diversité des réponses, c'est la constance de la question. Comprenez la constance de la question posée par l'humanité et que nous continuons à nous poser. Pourquoi, dans nos tribunaux, est-ce si important de juger, par exemple, des cas d'inceste entre beau-père, belle-fille ? J'entends femme, le mari d'une femme et la fille de cette femme. Et qu'un certain nombre des hommes qui sont accusés de ce type d'inceste se défendent maladroitement en disant « mais je ne vois pas où est l'inceste, je ne couche plus avec la mère ». Vous savez, c'est dit de façon extrêmement raccourcie, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il n'y a plus de possibilité de contact humoral entre la mère et la fille par mon intermédiaire. Parce que cet inceste-là entre alliés, entre consanguins, c'est pas un inceste entre l'homme et la jeune fille, c'est un inceste entre la mère et la fille, dont les humeurs identiques se touchent par l'intermédiaire du partenaire commun. Mais si le partenaire commun ne couche plus avec la mère, il ne voit pas pourquoi il y a un inceste en couchant avec la fille. Et c'est ce que dit très exactement le Coran, de la même manière. Il dit qu'il n'y a pas, que c'est licite pour un homme d'épouser la fille de son épouse s'il n'a pas de rapport avec l'épouse. Donc vous voyez, la prohibition de l'inceste est quelque chose d'un peu plus compliqué que ce simple passage de la nature à la culture et qui porterait sur la volonté des hommes de vouloir échanger entre groupes. Ça a été une conséquence. Ça a été le départ d'une société paisible. Ça a pu être donc un désir, fort.
On va revenir sur tout ça. Mais hein, on va revenir ensemble.
C'est un peu autre chose. D'autant, encore une fois, que la prohibition de l'inceste n'existe pas dans le monde animal, mais qu'il existe tout de même un évitement. Un évitement de l'inceste dans un certain nombre de sociétés, aussi bien d'oiseaux que de mammifères. Un évitement qui est dû à ce que certains appellent l'odeur de la parenté, qui est contractée dans le nid et par l'élevage commun, et qui fait que lorsque deux oies, par exemple, deux oies cendrées qui sont nées dans un même nid, eh bien, s'ils sont de sexe différent, elles ne copuleront jamais.
Mais là, on retrouverait peut-être pertinemment la théorie de l'horreur instinctive qui nous éloignerait de l'inceste, non, si on l'applique aux animaux.
Non, ce n'est pas, on ne peut pas parler d'horreur instinctive. Parlons plutôt de familiarité, d'attrait. Il n'y a pas d'attrait à ce qui est, dans ce cas précis, d'attrait à ce qui est connu. Mais cette idée d'odeur de la parenté est extrêmement intéressante parce qu'elle a été utilisée par des biologistes, par des généticiens, par des zoologues, etc. Et qu'on la retrouve sous la plume de Père de l'Église pour expliquer les prohibitions de l'inceste qui portaient jusqu'au 14e degré au 12e siècle de notre ère. Et il disait que ces prohibitions s'expliquaient parce qu'il y avait cette odeur de la parenté qui subsistait et que les gens reconnaissaient, mais qu'il fallait attendre 7 générations pour qu'elle disparaisse et qu'à ce moment-là, le grappin de l'alliance ramener au centre ce qui s'en était écarté, c'est-à-dire qu'au contraire on se mariait entre cousins.
C'est amusant parce que le fait qu'on retrouve sous la plume des anthropologues, expliqué par les anthropologues et dénoncé par les pères de l'Église la question de l'inceste, rappelle tout simplement, on peut remonter aux origines, le péché d'Adam lui-même, dont l'Église donne une version morale. Adam a transgressé un interdit, et dont Spinoza, lui, par exemple, quand il parle du péché adamique, donne une version quasi anthropologique, c'est-à-dire où il explique que la pomme était mauvaise pour Adam, le rapport entre le corps d'Adam et l'ingestion de la pomme était une mauvaise chose pour lui, il ne fallait pas. La pomme contenait des substances qui ne composaient pas bien avec son corps, et par conséquent, il n'avait pas intérêt à le faire. Et que ce qu'Adam a fait, c'est qu'il n'a pas désobéi à un interdit absolu, il n'a fait que, en somme, transgresser, entre guillemets, une loi de la nature, ou plutôt un principe de convenance entre telle et telle chose, entre lui-même et la pomme. Et c'est étonnant de voir à quel point un même épisode, un même phénomène, en particulier quand il est fondateur, un même phénomène peut être interprété selon des catégories binaires et absolues, ou bien interprété selon le filtre soit de l'anthropologue, soit du philosophe, c'est-à-dire un filtre qui déconstruirait la valeur absolue pour essayer d'en faire l'archéologie.
Ce n'est pas tellement qu'on cherche à déconstruire la valeur absolue.
Mais il n'en reste rien.
La valeur absolue, c'est disons un peu l'objet presque de notre métier, puisque ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment les autres pensent. Donc s'ils accordent une valeur absolue, nous allons rendre compte de cette valeur absolue. Mais il n'empêche que le point de vue qui est fondamentalement le nôtre n'est pas d'entrée ni dans notre propre jeu culturel de nos valeurs absolues, ni dans les valeurs absolues des autres, c'est d'en faire, comme vous dites, disons l'archéologie, enfin tout au moins le découpage pour le comprendre et le rendre assimilable par les autres, compréhensible par les autres, sans porter de... mais en niant, en étant fondamentalement matérialiste, si je puis dire.
Si je me suis intéressé au problème de parenté, c'est parce que nous avons, selon les sociétés, toutes sortes de règles qui paraissent incohérentes et absurdes. Il y a une société qui vous dira « la seule femme qu'il faut épouser, c'est la fille du frère de votre mère ». Mais si vous voulez épouser la fille de la sœur de votre père, ça c'est l'abomination de la désolation. Il y a une autre société qui vous dira exactement l'inverse. Il y a une société qui vous dira « les bonnes façons de se marier, c'est d'être divisé en deux groupes, et les hommes du groupe A épousent les femmes du groupe B, les hommes du groupe B épousent les femmes du groupe A ». Il y en a une autre qui vous dira « pas du tout, il faut plusieurs groupes, il faut que A donne à B ses femmes, que B donne ses femmes à C, C à un autre, et puis finalement, ça reviendra à celui du départ ». Et tout ça semble incohérent. Et si je me suis attaqué à ces problèmes, c'est en me disant il n'est pas possible que les hommes passent leur vie à déraisonner et passer des siècles et des millénaires et des centaines de millénaires. Et quelle est la logique qui est derrière tout ça? Et cette logique, j'ai essayé de la trouver. Et avec les mythes, c'est la même chose. Enfin, c'est tout de même quelque chose d'irritant, de chagrinant, de troublant de se dire depuis... c'est que l'homme existe depuis... beaucoup plus longtemps que nous ne le supposions. Il parle probablement depuis 2 millions d'années ou même davantage. Et depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête, qui sont absurdes, abracadabrantes, où n'importe quoi peut arriver et autres. Et je me suis attaqué au mythe en me disant, en me posant le même problème que pour les questions de parenté, est-ce que d'une certaine manière, il n'y a pas derrière tout ça une logique ?
Étonnant cet extrait. Hein.
Il est tout à fait bien. Tout à fait étonnant. Il pose très bien la question, surtout.
Il pose parfaitement la question du lien entre les mythes et son discours sur la parenté, entre son analyse des mythes et son discours de la parenté, sur la parenté. Et on retrouve également cette ambition qui est la sienne, d'ailleurs qui fait problème quand on essaie de le comprendre, entre une volonté de connaître ce que chaque tribu, chaque espace peut avoir de singulier, et en même temps... des structures
communes. La recherche des structures communes. C'est dans ce sens que je me considère son élève, parce que je pars exactement de la même volonté, des mêmes prémices et du même désir de comprendre et de trouver des structures communes, des structures intelligibles communes, et qui partent des mêmes, encore une fois, des mêmes interrogations. Et ce qu'il dit du rapprochement entre structure de parenté et structure mythique est tout à fait intéressant. Mais je dois dire que pour moi, j'établis une différence dans le structuralisme lévi-straussien entre celui des structures de la parenté et celui de l'analyse mythique. Je pense que la façon dont on se représente à l'extérieur le structuralisme lévi-straussien se réfère davantage aux structures mythiques qu'à son travail de dévoilage des logiques de la parenté. Parce que dans l'analyse mythique...
Pourtant, à l'entendre, on a presque l'impression que c'est la même affaire.
Oui, c'est la même démarche générale, c'est-à-dire mettre du sens, comprendre les lois de fonctionnement...
Trouver des mécanismes, trouver là où on cherche des coupables, souvent d'ailleurs.
Trouver des mécanismes, mais il a affiné sa méthode, et surtout parce que le matériau n'était pas le même, et pour les textes mythiques, il a affiné sa méthode en faisant apparaître, surtout dans la recherche des structures, ces architectures compliquées qui sont fonction d'opposition binaire entre l'aval et l'amont, le haut et le bas,
le
monde octonien et le monde céleste, le cru et le cuit, etc. Ce dont il n'avait pas besoin pour décortiquer des structures de parenté, il lui fallait simplement trouver ce qui rendait intelligible, ce qu'il dit bien au début, des comportements apparemment absurdes et totalement irréguliers. Sauf qu'ils sont réguliers pour les peuples qui les utilisent. Et il a mis en évidence, et je crois que cela, personne ne peut, y compris parmi tous ceux qui ont critiqué énormément, parce qu'il a été quand même énormément critiqué par la pensée anglo-saxonne, la pensée féministe, enfin, et aussi d'ailleurs par un certain nombre d'anthropologues français.
Et on ne parle pas ici des humanistes fils des Lumières, en l'occurrence.
Non, je parle des anthropologues.
Oui, au sein des anthropologues, les critiques.
Au sein des anthropologues, et donc, mais qui ne voulaient pas admettre la réalité de ces découvertes et qui ont pinaillé, si on peut dire, sur les questions d'échange préférentiel ou d'échange prescrit, sur la conscience, est-ce que les gens ont conscience des systèmes auxquels ils se plient, etc. Il y a eu énormément énormément de débats, vous savez, très, très savants. Mais il reste que même si, au début, le scénario de la prohibition de l'inceste entraînant l'exogamie et la mise en place des structures d'échange peut être raffiné, compliqué, etc., il reste que ce qu'il dit des structures élémentaires de la parenté et l'ordre qu'il a mis pour comprendre ce qui organisait des sociétés qui obéissent à des règles positives. Il dit bien des règles positives, c'est ça, les structures élémentaires de la parenté, c'est que vous devez obéir à une règle positive qui vous désigne, sinon la personne elle-même, du moins vraiment l'air général où vous devez chercher votre conjoint. Une fille de frère de mère, par exemple, ou bien une fille de l'autre moitié, quand ce sont des sociétés divisées en moitié. Et il a fait la typologie, en gros, de l'échange restreint, quand il y a une société divisée en deux moitiés, et de l'échange...
De l'échange généralisé.
Et de l'échange généralisé, avec des échanges restreints, d'ailleurs, plus compliqués, quand vous avez des sociétés à sections, comme en Australie, où il y a deux moitiés divisées en plusieurs sections, vous naissez dans une section, et votre conjoint, vous devez le prendre dans une seule des sections de l'autre moitié.
Précisément, ça c'est un des points très importants, puisqu'on parle de prohibition de l'inceste, et le mot en lui-même, d'ailleurs, peut nous induire en erreur. Il faut rappeler que la prohibition de l'inceste, et c'est Lévi-Strauss qui le dit, qui nous l'apprend, est moins une règle qui nous interdit d'épouser père, mère, sœur ou fille qu'une règle qui nous oblige à donner mère, fille ou sœur à autrui. En somme, la prohibition de l'inceste est le point de départ du principe du don.
Il le voit à la base de ce qu'on a appelé ensuite l'échange matrimonial. Mais cet échange matrimonial, donc c'est la version positive. Bon. Mais cet échange matrimonial positif, il n'existe que pour un petit nombre de sociétés. Ces sociétés qui ont ce type de règles. Or, toute l'humanité n'a pas ce type de règles qui fonctionne d'ailleurs sur des groupes. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une moitié, c'est toutes les femmes nées dans cette moitié qui vous sont interdites, même si elles n'ont pas de rapport direct de consanguinité avec vous. Il faut aller prendre de l'autre côté, dans l'autre moitié. Donc, ce sont des groupes entiers. Mais il y a toutes les autres sociétés. Et toutes les autres sociétés, il s'est arrêté là, Lévi-Strauss. Il a dit, je laisse à d'autres le soin d'aller voir comment ça se passe.
Il s'en est tenu aux structures élémentaires.
Parce qu'il y a les autres, qu'on appelle les structures complexes de parenté, et dont nos
sociétés.
C'est ce
que j'allais dire, on passe de Lévi-Strauss à Françoise Héritier ici.
Les structures semi-complexes, alors je vais expliquer la différence, parce que les structures complexes, ce sont, disons, celles de nos sociétés, pas seulement actuelles, enfin nos sociétés telles qu'elles existent depuis fort longtemps, et qui procèdent non pas par des préférences, des prescriptions, mais par des interdictions. Et ces interdictions sont fondées sur des degrés de parenté. Chez nous, on dit que vous ne pouvez pas épouser le père, la mère, les oncles et tantes, les frères et sœurs, les grands-parents, les fils, les filles, et puis les parents par alliance qui sont apparentés à ceux-là, certains types de cousins. Je vous dis qu'au XIIe siècle, ça allait jusqu'au 14e degré. Maintenant, on peut même épouser ses cousins germains avec une dispense, mais enfin, c'est quand même pas bien vu. On ne peut toujours pas épouser ses oncles et tantes. Enfin, il y a comme ça toute une série d'interdictions fondées sur des degrés de parenté, structures complexes de l'alliance. Et les structures semi-complexes, c'est aussi un certain nombre de sociétés dans le monde qu'ils pratiquent, et plus nombreuses qu'on ne pourrait le croire, notamment en Amérique du Nord, les sociétés indiennes, beaucoup de sociétés africaines, sociétés aussi du Pacifique. Ce sont des sociétés qui procèdent aussi par des prohibitions, mais portant sur des groupes et non pas sur des degrés de parenté. Par exemple, chez les gens chez qui je travaille, au Burkina Faso, il y a un nombre incroyable d'interdictions. Mais la plus fondamentale, c'est qu'on ne peut pas se marier dans son groupe lignager. C'est une filiation patrilinéaire, hein, donc différente de la nôtre. On reconnaît la filiation par les hommes seulement. Donc dans son groupe patrilinéaire, dans le groupe patrilinéaire de sa mère et le groupe patrilinéaire de ses deux grands-mères. Bon, ça c'est la base, il y en a beaucoup d'autres. Et la question qui est posée par Lévi-Strauss dans l'introduction aux structures élémentaires de la parenté, c'est une question très intéressante parce qu'il dit « L'abondance des prohibitions introduit une turbulence du champ de l'alliance et il n'est pas évident qu'on puisse repérer des constantes parce que, à cause de cette turbulence du champ de l'alliance. Et il faudrait peut-être aller y voir d'un point de vue statistique. Mais il n'offre pas de solution proprement parlée aux mathématiques.
Est-ce que ça n'est pas là un aveu d'échec de la méthode structurale comme tel, du structuralisme comme tel. Je voudrais qu'on entende.
Non, ce n'est pas un contradiction.
Attendez, on va revenir sur cette question. Hein. C'est très important et je vous pose la question à dessein, précisément pour que vous puissiez dire le contraire. On va entendre un second extrait de Lévi-Strauss dans lequel il parle du structuralisme. Ce qu'il entend par le structuralisme, comme cet effort pour introduire dans les sciences un peu plus de rigueur. Et je voudrais voir ce qui reste précisément du structuralisme quand, face à la complexité d'un cas, on en vient à préférer les statistiques, finalement.
Et puis, il y a un mot qu'il faut bien prononcer dans cette émission, Claude Lévi-Strauss, parce que votre nom y est attaché, c'est le mot structuralisme. Alors, structuralisme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quoi? C'est un mode de pensée, une méthode d'analyse, une idéologie, qu'est-ce que c'est?
C'est un mot qui a été tellement mis à toutes les sauces, si vous voulez, que moi-même, je n'ose plus l'utiliser. Parce qu'en réalité, on s'est imaginé que c'était une grande nouveauté, pas du tout. Enfin, c'est tout simplement un effort pour introduire dans les sciences, ou ce qu'on appelle à tort les sciences de l'homme ou les sciences sociales, parce que nous ne sommes pas des sciences, un petit peu plus de rigueur qu'il y en avait précédemment. Et en fait, c'est qu'on croit qu'il s'agit d'une découverte récente. Non, je crois que la façon la plus simple de faire comprendre ce que c'est que le structuralisme, dire nous avons affaire, nous autres qui étudions les hommes ou les sociétés humaines, à des objets qui sont extraordinairement compliqués, qui sont en réalité beaucoup plus compliqués que les plus compliqués de ceux que nos collègues biologistes ou physiciens étudient. Et donc, à la limite, nous ne sommes pas capables de décrire de façon satisfaisante. Un petit peu comme un visage humain. Enfin, vous pouvez lire pendant 20 pages de Proust la description du visage d'Odette de Crécy, disons. Vous ne verrez pas Odette de Crécy. Tout ce que vous saurez, c'est qu'elle n'avait aucun rapport avec René Lamouti. Mais enfin, vous ne pourrez pas voir le visage d'Odette de Crécy. Et c'est à l'époque de la Renaissance qu'un grand peintre allemand, Albert Dürer, s'est aperçu, parce qu'il était peintre, c'était un problème qui le préoccupait, il dessinait, que s'il n'était pas possible de décrire très exactement un visage et un autre visage, on pouvait trouver une règle de transformation très simple qui permettait de passer de ce visage A à un visage B par une déformation en elle-même facile à réaliser. Eh bien, au fond, le structuralisme, c'est ça. C'est en face d'objets très compliqués, de se dire, nous n'essayerons pas de décrire ces objets dans les moindres détails parce que nous n'y arriverions jamais. Une vie ne serait pas suffisante pour décrire une heure de la vie d'une société humaine de 50 personnes, n'est-ce pas ? Mais nous essaierons de comprendre quelle est la différence entre cette société et une autre société. Et nous apercevons que si chacune de ces sociétés prises à part est très compliquée, en réalité, la différence entre elles, la relation entre elles peut être plus simple.
Donc il envisage les éléments sous la forme du rapport et des différences qu'il y a entre eux. C'est la méthode structuraliste.
C'est la méthode structuraliste, c'est les écarts différentiels. Voilà. Mais pour revenir à votre question tout à l'heure, est-ce que c'est un constat d'échec que Lévi-Strauss écrivait dans l'introduction aux structures élémentaires de la parenté, lorsqu'il parlait des structures semi-complexes et complexes de l'alliance, en laissant la possibilité de trouver une réponse à la statistique ou même à la mathématique, en fait, non. Simplement, il oubliait une troisième possibilité. Et cette troisième possibilité, je ne dis pas qu'il l'oubliait, mais elle lui paraissait sans doute difficile à réaliser à une époque où n'existait pas la possibilité de travailler avec des ordinateurs. Je vais m'expliquer. Parce que travailler avec des ordinateurs facilite extraordinairement les calculs et les manipulations. Oui. Donc on peut faire
et les échanges aussi.
Et les échanges. Mais moi, je parle du travail sur les données. Mmh. Et le travail sur les données, certaines données, si on devait faire le travail à la main, il parle qu'une vie ne suffirait pas pour étudier une heure de la vie de 50 personnes dans une société particulière, mais une vie ne suffirait pas à un ethnologue pour travailler sur un corpus de 3000 personnes. Vous comprenez ? Si on devait étudier la totalité des échanges. Donc c'est ce qu'il n'avait pas pensé, qu'on pouvait aller voir comment fonctionnait concrètement des sociétés sur le terrain qui avaient des règles prohibitives. Et c'est ce que j'ai fait. c'est d'aller sur le terrain, de relever les généalogies et donc tous les mariages sur 3 villages, sur un certain nombre de générations, en contrôlant toutes les informations à l'amont et à l'aval, et ensuite de traiter ça par ordinateur en créant des logiciels avec l'aide d'une informaticienne, à qui je rends hommage parce que sans Marion Sels, moi-même, l'informatique n'est vraiment pas mon fort. Mais il faut avoir des hypothèses, il faut avoir le matériau, mais il fallait avoir aussi les ordinateurs. Sans eux, je n'aurais pas pu le faire. Et on s'aperçoit à ce moment-là, que les sociétés semi-complexes sont régies également par des nécessités, par les nécessités de l'échange, et qu'elles pratiquent des échanges restreints, et aussi des échanges que j'appelle par des séries de bouclages horizontaux qui sont des échanges de type généralisé qui impliquent 7, 8, 9 lignages, par exemple, selon le même mode, avec cela de différent des structures élémentaires, que dans les structures élémentaires, on se réserve ses consanguins proches et les consanguins éloignés sont pour les autres, alors que dans les structures semi-complexes, les consanguins proches vous sont interdits et c'est les consanguins les plus éloignés qui sont pour vous. Mais de toute façon, ça revient au même. Ce fameux grappin de l'alliance ramène au centre ceux qui s'en étaient éloignés.
Est-ce que vous, Françoise Héritier, parleriez de science ?
Moi, je parle de science.
Mais oui, vous parlez de science. Lévi-Strauss, non.
Lévi-Strauss ne parlait pas de science.
Il se méfie de ce mot. On a toujours l'impression qu'il se méfie de ce mot. On a toujours l'impression qu'il en a le goût et qu'en même temps, il s'en méfie presque spontanément, comme si l'objet qu'il avait à étudier était à la fois tributaire de schémas, a priori, et en même temps, chaque découverte nouvelle viendrait modifier et infléchir.
Là, c'est une différence de point de vue. Je pense qu'il a conscience, moi aussi d'ailleurs, de l'extrême diversité des sociétés humaines, de leur incroyable complexité et de cette difficulté qu'il résume très bien en parlant de l'impossibilité de rendre compte d'une heure de vie d'une société. Il ferait toute une vie pour cela. Mais il a aussi conscience, sans le présenter véritablement de façon brute comme étant un apanage scientifique, il a aussi quand même conscience du raffinement des méthodes que nous pouvons utiliser. Or, c'est de ce point de vue que je me place, moi, pour parler de science. Oui, nous avons affaire à des données d'une incroyable complexité, mais nous avons aussi élaborer un minimum de méthodes, et l'avenir, il est devant nous. Il n'est pas... Bon, nous avons le temps pour... Nous sommes peut-être arrivés au stade où la description est pratiquement faite.
Bon. Vous diriez cela ?
Je dirais cela en ce sens qu'il n'y a pratiquement plus de société inconnue. Des sociétés inconnues, de temps en temps, la presse vous dit on a découvert un petit groupe en Nouvelle-Guinée,
etc. Justement, voilà, François Héritier, quand on annonce par exemple qu'au milieu de l'Amazonie, on a croisé un groupe de gens qui n'avaient jamais entendu parler de nous, et réciproquement, quelle est votre réaction ? Est-ce que vous vous dites, il y a là une matière nouvelle, ou bien, vraisemblablement, étant donné le lieu, le milieu, les conditions météorologiques, l'ensemble des structures en place, justement, vraisemblablement, les modes de fonctionnement de ces sociétés sont ceux-là ?
Je ne dirais pas vraisemblablement ils sont ceux-là, mais je dirais vraisemblablement ils ressemblent, par des écarts différentiels que l'on peut situer, ils ressemblent à ceux des groupes de la même région.
C'est ça, mais alors, et donc, vous dites l'avenir est devant nous. Est-ce que l'avenir, c'est une complexification des structures en place, ou est-ce qu'au contraire, l'avenir va tendre vers une unification
Je disais l'avenir pour nos disciplines. Nous avons fait... Il n'y a pas de société qui n'ait pas été rencontrée et qui n'ait pas au moins été un peu décrite. Bon. L'ensemble de ces descriptions, c'est le matériel avec lequel nous travaillons. Bon. Il peut y avoir des inégalités dans la description. Elles sont plus ou moins précises, plus ou moins fines, et puis tout le monde ne s'intéresse pas nécessairement aux mêmes questions, y compris chez les ethnologues. Très peu s'intéressent à la parenté, par exemple, alors que c'est fondamental.
Bon. Très peu s'intéressent aussi aux embouteillages, vous avez remarqué. Alors que c'est quand même un retour immédiat de l'homme à l'état de nature, un comportement bestial, et il n'y a pas de traité de l'embouteillage.
Un troupeau de gnous qui... je suis d'accord.
On termine la parenthèse.
Donc je disais que devant nous, maintenant, il nous reste à travailler sur cet amoncellement incroyable de matériaux, et nous en sommes au début. Nous en sommes au début. Mais moi, je parle de science, parce que nous arrivons à mettre en place des lois et des invariants. Des lois, c'est plus facile à faire dans des domaines finis. Le domaine de la parenté s'y prête admirablement. Hein, parenté et alliance, pour des raisons très simples, parce que nous sommes l'humanité toute et intégralement tout, il n'y a pas de différence selon les sociétés, il y a toujours des hommes et des femmes avec qui se reproduisent et qui font des enfants, des garçons et des filles, avec des parents et des aînés qui naissent avant des enfants et des cadets. Vous voyez donc, c'est d'une simplicité biblique comme composant. Et à partir de ces composants, vous pouvez faire toute une série de combinatoires. Et ces combinatoires, elles ont toutes été explorées par les sociétés humaines. Je veux dire par là qu'il y a des sociétés humaines qui exemplifient l'une ou l'autre des combinatoires. Sauf, de temps en temps, quelques combinatoires qui n'existent pas, qui ne sont jamais arrivés à maturité, à existence. Et quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que c'est toujours pour une raison extrêmement simple, et j'en reviens à ce que je disais au début, ce sont des combinatoires qui auraient abouti à faire des sociétés où les femmes auraient eu la prééminence. Ce qui, selon mon propre scénario, ressortissait de l'impossible, puisque...
Depuis les Amazones, en tout cas.
Mais les Amazones n'ont pas existé, c'est du mythe. Mais ce qui est important de dire, c'est que, pour finir de dire quelque chose que je n'ai pas eu le temps de dire au début, c'est que devant la question que se posaient les sociétés humaines sur le fait que les femmes faisaient les enfants des deux sexes, la réponse qui a été donnée à cette incongruité, pourquoi les hommes ne faisaient-ils pas leurs propres fils, ça a été de dire que, puisqu'il fallait le coït pour que les femmes fissent des enfants, que les femmes n'avaient pas apparemment dans leur corps un petit moteur particulier différent de celui des hommes, et qu'il fallait le coït, c'est que les hommes mettaient les enfants dans les femmes, et que les femmes n'étaient rien d'autre qu'un réceptacle, ou un terreau, selon les différents types de métaphores. Et donc ce qui autorisait de les considérer comme des objets qu'on pouvait échanger et qui appartenaient à des hommes, puisque c'était une substance extrêmement précieuse, puisqu'elle permettait de faire des fils. Donc c'était ça qui se trouve à l'origine.
On retrouve presque ça aujourd'hui avec l'idée des mères porteuses, voire de l'utérus artificiel.
Et donc l'invariant, ce sont des invariants, si vous voulez. Donc on peut trouver à la fois des lois et des invariants. Et des invariants, ce sont des manières dont des questions ont été posées par l'humanité, des questions qu'elle continue de se poser et auxquelles elle trouve des réponses. Et des réponses qui peuvent être variables. Par exemple, vous parlez de l'utérus artificiel. C'est une des réponses nouvelles qui peut être apportée à cette éternelle question. Pourquoi ce sont les femmes qui font les enfants des deux sexes? Et avec un utérus artificiel, des hommes pourraient posséder, acheter, avoir un utérus artificiel, et à condition. Mais alors là, on en revient donc toujours au même données de base, à condition de se procurer un ovule féminin. Il pourrait avoir, et d'avoir la maîtrise, donc pour que ça soit un fils, il pourrait avoir tous les fils qu'il voudrait, sans avoir pour autant à s'encombrer d'une épouse, ni même de s'occuper de l'éducation des enfants, c'est pour peu qu'ils aient les services adéquats. Mais il pourrait avoir une descendance. Mais il faut pour cela se procurer un ovule. Et donc on en revient aux questions d'éthique qui sont posées maintenant. L'utérus artificiel, d'abord, moi, je n'y crois pas, mais c'est une autre question. Mais je ne crois pas en sa possibilité. Mais c'est la question qui resterait pendante, c'est qu'il y aurait toujours une traite, si je puis dire, des femmes, parce qu'il faudrait bien se procurer ces ovules et il y aurait un commerce.
Dernier point, on termine cette émission sur l'exemple d'une société, en tout cas d'une micro-société, c'est-à-dire une famille, qui repose tout entière sur le tabou d'un inceste que personne n'ignore. C'est le film Festen de Thomas Vinterberg. Ce film est extraordinaire parce que on découvre non seulement qu'il y a eu inceste au départ, on va entendre l'extrait qui le raconte, mais la découverte de cet inceste est également la découverte que nul n'ignore qu'il y a eu cet inceste. Et je voudrais qu'on en discute un petit peu. On va juste réentendre l'extrait et en discuter ensuite.
Et merde. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais papa voulait toujours prendre des bains. Pour ça, il nous emmenait, Linda et moi, d'abord dans son bureau. Curieusement, il avait quelque chose d'urgent à régler, sans attendre. Alors, il verrouillait la porte, il descendait les persiennes, il allumait une lumière pour faire joli, et puis il enlevait sa chemise et son pantalon, et on devait en faire autant. Après, il nous faisait allonger sur la banquette verte qu'on a mise à la poubelle depuis, et il nous violait. Il abusait de nous. Il avait des rapports sexuels avec ses chers petits. Il y a quelques mois, à la mort de ma sœur, j'ai réalisé que Kelg est un homme très propre, avec tous ses bains qu'il prenait. Et j'ai pensé que ça... ce serait bien que je le partage avec ma famille. Ça s'est produit en hiver, en été, en automne, au printemps, le matin, le soir. Et je me suis dit, il faut qu'il sache ça de mon père. Helg est quelqu'un de propre. Et nous sommes tous réunis ici ce soir pour fêter les 60 ans d'Helg. Quel vénard! Il y en a qui ont de la chance de vivre une aussi longue vie, de voir grandir leurs enfants et même leurs petits-enfants avec Michael. Oh, j'ai assez parlé. Nous ne sommes pas venus ici pour m'écouter parler toute la nuit. Nous sommes venus pour célébrer les 60 ans d'Helg. Alors fêtons-les tous ensemble. Papa, merci pour toutes ces belles années et bon anniversaire.
Nous n'avons rien à boire. Est-ce qu'on pourrait remplir les verres?
Ce qui est fou dans cet extrait, c'est pas seulement l'aveu et le l'aveu courageux de cet enfant, c'est la réaction. C'est on ne peut pas avoir entendu cette chose-là. Non pas parce qu'on le découvre et que c'est trop horrible, mais parce qu'on le sait déjà et qu'il ne faut pas le dire et que la famille entière repose sur le silence et la chape de plomb déposée là-dessus.
Il y a deux choses là-dedans. D'abord, moi, j'ai toujours du mal à parler d'aveu de la part des victimes. Elles n'ont rien à se reprocher. Donc quand on parle d'aveu...
C'est moi qui ai dit aveu ?
Oui.
Ah oui, non, c'est intéressant.
Quand on parle d'aveu, ça veut dire qu'on se sent d'une certaine manière
coupable.
Alors qu'en fait, ils ne le sont pas. Ils ont dû subir, ils sont victimes.
Non, c'est
l'évidence. Et ils savaient qu'il y avait non pas une complicité de la mère, mais une cécité volontaire de la mère. Bon. Donc, et sans doute de tout l'entourage. Donc ce qui est important là-dedans, c'est cette notion de secret partagé, et d'acceptation par tout l'entourage de quelque chose qui est considéré comme justement une violation de l'interdit majeur. Mais
parce que la société entière repose là-dessus, c'est ça que je veux dire.
C'est moins l'interdit de l'inceste. Au sens la prohibition telle que l'entend Lévi-Strauss, où on s'interdit des rapports sexuels entre consanguins de sexes différents et que pour aboutir à l'alliance. Pour aboutir à l'alliance, c'est-à-dire que des hommes vont s'interdire d'accéder à leurs filles et à leurs sœurs pour pouvoir les donner, et à leur mère aussi, dans la théorie lévi-straussienne. Mais tandis que là, nous avons quelque chose de tout à fait différent. Ça n'a rien à voir avec l'échange, ça a à voir avec la pulsion sexuelle masculine. Et cette pulsion sexuelle masculine, qui n'est pas seulement une question d'inceste, c'est une question de pédophilie, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que dans le cas de Festen, je ne le verrais pas comme un cas qui serait exemplaire de la prohibition, de la rupture du tabou de l'inceste, de la prohibition de l'inceste, mais comme un cas exemplaire de la complaisance de la société et de la famille et de l'épouse et des serviteurs et de tout le monde à l'égard de la pulsion sexuelle du dominant, c'est-à-dire du père de famille, ce qui est quand même quelque chose d'un tout petit peu différent.
Merci Françoise Héritier. Je rappelle que vous êtes professeure honoraire au Collège de France, directrice du laboratoire d'anthropologie sociale et directrice d'études à l'EHESS. C'est des structures élémentaires de la parenté de Claude Lévi-Strauss que nous venons de parler avec vous. Vous-même, votre livre s'intitule « L'exercice de la parenté », paru en coédition, le Gallimard et le Seuil. Récemment est paru également dans la collection « Monde en cours » à voix nue, le livre des entretiens que vous avez avec Caroline Brouet, intitulé « Françoise Héritier, l'identique et le différent », donc aux éditions de l'Aube, un partenariat France Culture. Je rappelle aussi, évidemment, bien sûr, l'édition des œuvres de Claude Lévi-Strauss dans la Pléiade, donc Gallimard, 2008. Claude Lévi-Strauss entre en Pléiade l'année de son centenaire. Vous trouverez toutes ces références sur notre site internet, ainsi que pas mal d'informations sur la journée du 28 novembre au musée du Quai Branly, qui consacre toute sa journée à Claude Lévi-Strauss, donc jour du centenaire, une journée dont évidemment France Culture, là encore, est partenaire. Demain, je recevrai Vincent Debanne et Marcel Hénaff et on parlera ensemble de Tristes Tropiques. À la technique aujourd'hui, c'est Gilles Gallinaro. À la réalisation, Marie-Ange Garandeau, assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Adèle Vanret, Estelle Gap, Gabrielle Alperne, Éléonore Clovis et Jennifer Murzo. France Culture, il est 17h50. Tout de suite, le regard d'Albert Jacquard.